9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et à votre santé, à votre très bonne santé, bonjour, bienvenue. Si je vous dis bon matin, vous avez compris que Karima Shadibéou est avec nous. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bon matin tout le monde. Voilà. Très contente d'être là.
Psychothérapeute, coach parental et familial et sans trahir un secret, carrément on peut le dire.
Oui.
Vous avez une nouvelle idole sur Insta.
Oui. Oui, on l'a même reçue. On l'a même reçue ici, bah oui.
Ah non, moi
vous
je parlais
de qui?
Je parlais de votre autre idole sur Insta, celle qui vous fait mourir de rire.
Ah oui, non, c'est vrai, oui, oui, d'accord, oui. J'en ai plein d'idoles.
Vous avez un côté caché, Karima.
On va me dire Karima est une adepte de l'idolâtrie, ça y est, alors là c'est fou.
Sur Insta?
On va le dire sur Insta, c'est sûr.
L'idolâtrie sur Insta, voilà. C'est la pire.
Exactement, non, c'est Madame Connasse, moi j'adore Madame Connasse, oh là là. Elle est trop géniale.
Non, c'est drôle. Alors c'est de l'anti-développement personnel. Hein.
Oui, absolument. Hein. C'est vraiment si vous voulez vraiment avoir une bonne prise de recul, vous changez les idées, ben regardez un peu ses posts, vous verrez, ça remet un petit peu les idées en place et voilà, et dans la légèreté.
Et c'est parfait pour bien démarrer la journée.
Absolument.
Vous savez que dans cette émission, on traite des sujets qui nous sont inspirés par la vie, mais si vous souhaitez vous aussi qu'un matin on aborde une thématique, vous pouvez le dire à Karima, vous envoyez un petit post ou un message.
Absolument.
Et on traitera le sujet.
Avec beaucoup de plaisir.
On va parler de la confiance en soi chez les enfants. Sujet que vous avez choisi d'intituler Karima, donner confiance en soi à son enfant.
Oui.
Et moi, j'étais pas très d'accord avec vous.
Oui.
Parce que je disais, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut donner, la confiance en soi?
Non, alors c'est pas quelque chose qu'on peut donner. Parce que l'enfant, déjà, quand il vient au monde, il vient déjà avec un capital, ce qu'on appelle l'estime de soi. Parce que souvent, quand on parle de la confiance en soi, alors dedans, il y a l'estime de soi, l'image de soi, l'affirmation de soi, la confiance en ses compétences, la confiance en les autres. En fait, ça mélange un petit peu tout ça. Et donc, quand on parle de la confiance en soi, on c'est pas quelque chose qu'on va donner. Par contre, c'est quelque chose qu'on va... On va le mettre, en fait, quand je dis le transmettre, c'est-à-dire créer un espace sécurisant, parce que c'est le docteur Boris Cyrulnik, hein, quand il parle de la confiance en soi, nous dit que c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'il va aider, ça, c'est quelque chose qui se passe au moment de l'attachement, dans tout ce processus de ce lien d'attachement, qui va venir en fait nourrir le cerveau aussi et permettre au cerveau de sécréter deux hormones importantes qui sont la dopamine et la sérotonine, qui justement vont mettre l'enfant dans cette joie naturelle, dans cette excitation aussi, dans cette envie en fait de se dépasser quand on est face à l'adversité. Mmh. Et notamment si on manque de confiance en soi, bah ça va être difficile d'affronter les difficultés de la vie, et Dieu sait si la vie nous met beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles sur le chemin.
Mais vous m'avez dit que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un dans la vie qui ait trop de confiance en lui.
Oui, ça c'est vrai. Parce que beaucoup aussi de parents, ça n'existe pas, quelqu'un qui a trop confiance en lui. Parce que quand on parle un excès de confiance, et beaucoup de parents le disent, ils disent « Ah mais je veux pas faire ça parce que sinon il va trop prendre la confiance ». Ça c'est l'expression qui revient à chaque fois.
On dit « Oh là là, lui il a trop la confiance ».
Oh lui il a trop la confiance, ah il a pris la confiance, attends, s'il prend trop la confiance, il va marcher dessus ou il va... En fait c'est pas un excès de confiance, ça n'existe pas un excès de confiance. Parce que la confiance c'est quelque chose qui est naturel, donc qui se développe naturellement. Les parents doivent installer un contexte, un environnement propice pour venir l'amplifier, pour le faire grandir. L'excès de confiance, pour moi, de mon point de vue, ça veut dire arrogance. L'excès de confiance, ça veut dire orgueil. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux ou quelqu'un qui est arrogant, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui. Au contraire, il va utiliser ses attitudes, ses postures pour venir masquer le manque de confiance qu'il a. Tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de transmettre en fait la confiance ou de développer la confiance chez vos enfants. N'ayez pas peur, il peut pas tomber dans un excès. S'il tombe dans un excès, c'est qu'il devient arrogant. Dans ce cas-là, c'est une autre méthode qu'il va falloir utiliser.
Mais c'est pas de la confiance en lui-même.
Non, c'est pas de la confiance en lui-même.
Bon, alors c'est vrai qu'on a vous avez parlé de beaucoup de choses déjà. Comment est-ce que vous définissez vous la confiance en soi?
Alors la confiance en soi, c'est cette capacité. Je parle de capacité. Je vais pas parler d'état d'être. Pour moi, la confiance en soi, je la découpe en deux. D'accord? Puis ensuite, je la subdivise aussi en quatre après. Il y a la confiance en soi, c'est avoir une fiabilité de soi-même, c'est-à-dire avoir être sûr de soi, c'est être convaincu aussi par soi. dans, soit dans ses compétences, mm-hmm. c'est-à-dire je me sens capable de faire ça, je sais que je suis, c'est un savoir que j'ai sur moi-même, soit au niveau de mes compétences, soit au niveau de mes relations avec les autres. L'autre volet de la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire la connaissance de sa valeur personnelle. Quelle est ma valeur personnelle ? Et le deuxième point, donc il y a cette confiance intérieure et cette confiance en soi de se dire « je mérite d'obtenir ce que je veux, je mérite d'aller au bout de ce que je veux ». Quand on en discutait en préparant l'émission, on avait parlé de la procrastination, Philippe, vous vous souvenez ? D'ailleurs, on s'est dit qu'on allait peut-être faire une émission là-dessus. Parce que c'est vrai, c'est très à la mode, tout le monde en parle, tout le monde procrastine déjà.
Moi, j'ai l'impression que j'ai encore pas entendu la vraie bonne émission sur la procrastination, telle que j'aimerais vraiment qu'on en parle et voir ce qui se joue derrière tout ça, parce qu'on est quand même tous un peu des procrastinateurs, même si on fait énormément de choses.
Même, exactement. Et sur certains points, sur certaines choses, d'ailleurs, je suis bien contente, parce qu'hier, quand on s'est parlé, je vous disais que je devais finaliser un dossier. Je suis contente, j'ai finalisé, j'étais au bout, j'ai repensé à notre discussion. Voilà, pour vous dire que on a beau se travailler soi-même, d'accord, et ben ça continue.
On a beau en parler toutes les semaines, exactement, à la radio, faire des exercices, c'est quand même quelque chose d'ancré en soi, la procrastination.
Absolument.
J'ai presque envie de dire que c'est bon.
Oui.
Il y a une forme de plaisir à
procrastiner. Oui, vous savez pourquoi, Philippe ? Parce que le fait de freiner à aller faire quelque chose, parce que la personne qui procrastine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle freine, elle y va pas. Elle freine. Alors soit ce freinage, il est conscient, soit ce freinage est inconscient. Donc c'est ça, il faut travailler ça. Le fait de freiner et qu'ensuite d'être au bord du précipice, moi j'appelle ça comme ça, et de se dire purée, si je fais pas ma déclaration d'impôt, ce qui va me tomber derrière, c'est-à-dire on voit la conséquence du fait de ne pas faire ce que j'ai à faire, va nous mettre tout de suite une motivation, donc une énergie haute pour aboutir et terminer.
Ce qu'on a à faire. Ça prouve qu'on a quand même sérieusement confiance en nous-mêmes.
Oui.
De se dire qu'on pourra le faire à la dernière minute.
Exactement. Mais ça, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Quand j'ai modélisé mes modes opératoires, quand je veux faire quelque chose, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait que je sois sur le fil du rasoir et au bord du précipice. Et c'est là où se manifeste, où se déclenche toutes mes ressources, en fait. Et je me dis, mais regarde, efficacité. Tu l'as mise où, cette efficacité ? T'aurais pu le faire, t'aurais évité toute cette charge mentale, t'aurais évité de dire, oh là là, tu t'endors avec, tu te réveilles avec, tu manges avec, c'est un boulet, exactement. Ouais. Alors qu'il a fallu de quoi ? Juste de débloquer une pensée qui va te dire, oh là là, tu imagines si tu le remplis pas, toutes les conséquences derrière, est-ce que tu vas pouvoir assumer tout ça ? Et puis du coup, de se retrouver à le faire et d'être efficace. Donc, ce qui nous fait dire quoi, Philippe ? Que c'est en rapport et en lien très étroit avec l'estime de soi. La procrastination est liée à l'estime de soi. Est-ce que je mérite d'aller au bout de ce que je veux ? Est-ce que je mérite, parce que le fait d'obtenir ce que je veux va faire de moi peut-être une personne différente ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et c'est ça, en fait, qui se joue inconsciemment derrière.
Alors, pour déjà que la confiance de nos enfants puisse s'épanouir, il y a un préalable, c'est qu'il faut leur faire confiance.
Oui.
Et quand on a tendance à être un chouïa protecteur, c'est compliqué.
Exactement. Parce qu'on va brimer l'enfant, on va l'empêcher, en fait, de faire, on va être comme un frein, on parlait de frein, comme un espèce de bouclier protecteur de cet enfant et l'empêcher de faire son expérience et qu'il puisse apprendre de cette expérience. Et donc, du coup, en voulant le protéger, voire le surprotéger, on l'empêche d'apprendre et justement de tester et ses limites, de tester ses capacités, jusqu'où je peux aller, de tester aussi comment est-ce qu'il peut avoir un regard sur lui-même. Et pour se jauger, d'évaluer, ce que je peux, super, je continue, je renforce, ce que je ne peux pas, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois affiner, qu'est-ce que je dois ajuster. Et ça, nous, en tant que parents, tout le temps, et on l'entend tout le temps, moi je l'entends tout le temps, les parents qui me disent en cabinet, oui, mais j'ai tellement peur pour lui, et surtout quand c'est à l'âge de l'adolescence. À quel moment cet enfant, s'il ne subit pas les conséquences de ses actes, à quel moment il va apprendre ? Maman, papa est toujours là en bouclier, rempart.
On le voit, je vous interromps un instant, mais c'est le moment du bac.
Ah, exactement.
Il y a beaucoup de parents qui sont en panique parce que les enfants ne travaillent pas, enfin autant que eux, ils voudraient que les enfants travaillent.
Exactement.
Donc finalement.
Autant qu'ils travaillent, ou alors donc c'est pas assez, ou il fournit pas assez d'efforts. Ou je crois qu'il a mal compris, et en fait il faut leur faire confiance. On a commencé l'émission avec ça, Philippe, vous l'avez dit, leur faire confiance est un préalable. D'accord ? Et faites aussi confiance à ce que vous transmettez à votre enfant. C'est-à-dire que vous êtes là en train de transmettre, vous faites de la pédagogie, donc ayez confiance en ce en quoi vous croyez, vous, en tant que parent, et croire en son enfant, croire qu'il est capable de faire le choix juste, qu'il est capable de mobiliser aussi ses ressources, mais si, par exemple, je donne un exemple qui revient tout le temps, quand le parent dit à son enfant, attention, tu vas tomber. Attention, tu vas tomber quand il est en train de jouer au parc, il grimpe sur un arbre,
ou
il est en train
courir,
de,
voilà.
ou de courir. Attention, tu vas tomber. Attention ceci, attention cela. Ou ne joue pas avec celui-là. Ah, et c'est une mauvaise influence, je veux pas que tu le fréquentes. Ou qu'on va voir, vous savez. Alors moi, je faisais partie de ces mamans, hein. Maintenant, je le dis, je suis une repentie, je le dis, Philippe, d'accord, en toute authenticité.
Merci de la confiance que vous nous témoignez, hein,
voilà.
de vous libérer devant vos auditeurs, Karima.
Et de dire, j'étais une maman qui disait, ah, moi, mon fils, je veux pas qu'il s'assoie à côté de celui-là parce qu'il le perturbe et mon enfant, il porte des lunettes, donc il embête. Et donc, et j'étais, mais vraiment la maman, je vais pas dire le mot, mais voilà, casse-pied. Voilà, je vais rester comme ça. La maman un peu chameau. Vous savez, la maman chameau qui arrive là, comme ça, hein, qui fait son chameau et qui, voilà. Voilà, je m'appelais comme, je crois qu'elle m'appelait comme ça, les maîtresses. Mais
le
bon,
chameau,
c'est pas grave.
Oui, oui.
La chamelle. Et donc, le parent, qu'est-ce qu'il envoie comme message à son enfant? Que, je crois pas en toi. Je pense que tu vas tomber parce que peut-être que tes pieds, tu sais pas bien courir et que tu vas t'emmêler les pieds, que tu vas tomber. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de transmettre et d'envoyer le message à l'enfant. Je ne crois pas en toi, que tu puisses faire attention et être en sécurité. Je ne crois pas en toi que tu puisses faire le bon choix au niveau de tes camarades, qui tu peux fréquenter, qui tu peux pas fréquenter. D'accord ? Qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi. Dans ces simples phrases-là, Philippe, on colle l'étiquette sur l'enfant de « tu n'es pas capable, je ne crois pas en toi, donc je n'ai pas confiance en toi
oui. ».
Donc si maman ou papa n'a pas confiance en moi, si le professeur n'a pas confiance en moi, ben comment moi je peux avoir confiance en moi? C'est pas possible.
Allez, accompagnez vos enfants pour qu'ils aient confiance en eux. On en parle ce matin jusqu'à 10h avec Karima Chadibaou.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Comment donner confiance en eux à vos enfants? On en parle ce matin avec Karima Chadibaou. Alors il y a deux choses que je voudrais qu'on retienne de cette première demi-heure et sur lesquelles j'aimerais qu'on s'arrête. Karima, comment des parents qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux peuvent-ils transmettre la confiance en eux à des enfants?
Alors, c'est la confiance en soi, ça va avec l'encouragement. Et on a plusieurs psychologues qui, quand ils parlent et qui développent en fait leur concept par rapport à la psychologie de l'enfant, notamment je pense à Drakers, donc je pense que c'est Rudolf son prénom, donc qui est un des piliers en fait de la discipline positive, discipline, donc la rigueur, les règles, vraiment tenir vraiment un cadre, d'accord, et cette bienveillance dans l'éducation, c'est-à-dire d'être à l'écoute. L'encouragement, il nous dit. Donc le fait de croire en son enfant, encourager, dans le encourager, il y a le mot courage, mais il y a aussi cœur dedans. Donc je donne du cœur à mon enfant. Il y a cette idée de il compare ça à l'encouragement dans l'éducation et l'eau en fait qu'on va donner avec laquelle on va arroser la plante. Donc la plante, c'est dans cette métaphore, dans cette étiquette métaphorique, la plante c'est l'enfant et l'eau c'est l'encouragement que vous allez lui donner pour la faire grandir, pour l'aider. Comment un parent peut encourager son enfant? Comment un parent peut donner confiance à son enfant si lui il en a pas? C'est-à-dire simplement avec ce regard bienveillant, de dire je sais que c'est difficile. D'accord, je sais que c'est difficile, tu as du mal en orthographe par exemple. Eh bien le fait de souligner ce qui est bien. Au lieu de regarder le dessin de votre enfant et dire tiens ça dépasse là, ou de regarder oh là là il y a beaucoup de rouge là, toutes les fautes d'orthographe, purée il y en a 15. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, de regarder le verre à moitié vide, on va regarder le verre à moitié plein. Pourquoi? Parce que le fait de regarder quelque chose de positif va mettre votre enfant dans une dynamique positive. D'accord? Parce que quand on focalise sur le négatif, sur quelque chose qui ne va pas, c'est une énergie basse, ça va le faire descendre. Et il va se dire, oh là là, tout ce que j'ai à faire, mais c'est difficile. Maman ne croit pas en moi. Elle me dit, regarde toutes ces fautes d'orthographe, que je ne sais pas colorier dans le cadre, je suis sortie du cadre, que je ne sais pas me tenir à table, que je ne sais pas m'habiller tout seul, que je ne sais pas faire ceci ou faire cela. D'accord? Donc, souligner ce qui est bien, même si vous, en tant que parent, vous avez du mal. Dites à votre enfant que vous aussi, quand vous avez votre présentation devant votre patron, votre présentation PowerPoint que vous devez faire devant toute l'équipe et que vous êtes là, vous avez les mains moites, les pieds poites, les genoux qui tremblent, vous commencez à bégayer, à suer, à transpirer, c'est normal. Il y a un enjeu. Il y a quelque chose qui se passe, donc j'ai la capacité, j'ai peur, mais j'ai aussi la capacité de gérer ma peur et de aller chercher la confiance intérieure pour me dire je suis à ma place, je suis à ma place, je suis voulu à cet endroit, d'accord ? Donc je vais pouvoir déployer ma présentation là, en tant que parent, mais en tant qu'enfant aussi, passer cette évaluation, passer cet oral, et voilà, c'est pas parce que nous on l'a pas que ça veut dire que nos enfants vont pas l'avoir.
D'accord, donc ça se transmet pas. Encouragement que qu'il distingue de la félicitation.
Oui, absolument, Philippe. Oui.
Oui, allez-y. Parce voilà. Il faut expliquer le parce qu'il y a, le parent qui encourage. Enfin, il y a le parent qui encourage et il y a le parent qui félicite.
Oui.
Qui dit toujours, c'est bien.
Oui. Alors, quand le parent qui félicite, quand il dit c'est bien, c'est une évaluation. C'est une remarque, d'accord, qu'on va faire. L'encouragement est une remarque. Aussi. Les félicitations ou le compliment, ça va avec, ce sont des remarques aussi. Donc là, le point commun est là. La différence, c'est quoi ? C'est quand on fait un encouragement, on le base sur quoi ? Sur de l'observable et du vérifiable. Ça veut dire quoi ? Observable par vous, le parent, observable par l'enfant, observable par l'entourage. Tout le monde peut voir la même chose. Vérifiable, on peut le vérifier. Oui, j'ai mis plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines à apprendre à faire mes lacets ou à apprendre que le verbe pouvoir est un verbe irrégulier et que dans la manière dont je vais le conjuguer à tel ou tel, c'est-à-dire le parent va mettre le focus sur les efforts qui ont été fournis pour ensuite arriver à un résultat. Quand on complimente ou quand on félicite, on arrive directement au résultat. Et on donne pas le parcours, on ne donne pas le chemin qui a été fait par l'enfant pour arriver là. C'est pour ça que moi je dis, personnellement, et bon, le courant dans lequel je suis, quand on parle de félicitations, il faut que ça vienne couronner, en fait. D'accord? C'est comme au moment de la cérémonie, de la remise. Ça y est, tu es passé par telle et telle et telle étape, par tel et tel niveau. Tu es arrivé, tu as validé ça. Puis ensuite, tu es passé par là et tu as validé. C'est-à-dire refaire le parcours à l'enfant pour qu'il prenne conscience de tout ce qu'il a mis en place, de toutes les compétences aussi psychosociales qu'il a mis en place pour arriver là où il veut. Donc, pour l'encouragement, pourquoi? Parce qu'il est descriptif et l'enfant, finalement, vient tout seul se faire le compliment, se dire « Waouh, j'ai transpiré, je me suis battue et j'y suis arrivée ». Tandis que l'enfant qui, lui, va recevoir un compliment ou des félicitations, c'est évaluatif. Ça veut dire « Aujourd'hui, je peux être félicitée, aujourd'hui, je suis complimentée, aujourd'hui, c'est bien ». Ça veut dire que demain, ça peut être mal. Et on ne donne pas, en fait, le parcours, comment il en est arrivé là. D'accord ? Vous saisissez donc la différence entre les deux, hein ? Donc, l'encouragement descriptif, vérifiable et observable, et l'enfant se voit son parcours.
C'est du factuel.
C'est du factuel. L'évaluatif, donc le compliment, c'est évaluatif. Donc, ça veut dire qu'il dépend du parent, dépend de l'adulte qui va donner, justement. C'est comme une récompense, hein. Je vais te donner le bonbon, je vais te donner le stroke, comme ça, parce que justement, tu es... Alors, ça veut dire qu'un jour, tu me le donnes et un jour, tu me l'enlèves, quoi.
Alors, comment décrypter ces enfants en partant du principe que chaque enfant est unique, que nos enfants ne sont pas nous, et que tous les enfants n'aiment pas la même chose.
Oui, absolument.
Donc, finalement, peut-être que ça ne sert à rien de pousser les enfants dans des choses qu'ils n'aiment pas.
Oui, on en a déjà parlé une fois dans une émission, peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Vraiment, ça veut dire qu'il faut être vraiment, en tant que parent, à l'écoute de nos enfants, les observer, les écouter, écouter leurs émotions, écouter ce qui se passe en eux, comment ils expriment leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment. C'est pas parce que moi, en tant que parent, j'aime telle ou telle chose que ça veut dire. Moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences comme ça parce que je partais du présupposé que mon enfant aimait les mêmes choses que moi. Et ça arrive. Vous savez, quand il arrive à la préadolescence, 8 ans, 9 ans, 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, et où vous allez lui acheter des vêtements, quoi. savez, quand vous allez lui acheter des vêtements et que vous lui dites « Ah, oh, là-dedans, je te vois bien. Oh là là, cette jupe, elle va te... » Et puis que votre fille vous regarde et que vous dit « Non, 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 maman, ça c'est vintage ou c'est vieux ou c'est je sais pas quoi. C'est des démodés. Non, non, je veux pas. » Et puis vous, vous réalisez, vous dites « Waouh, mon enfant, il a changé. » Et puis, c'est une manière aussi de s'affirmer. Ce qui m'amène, tout à l'heure, je parlais de la confiance en soi. La confiance intérieure qui est liée à l'estime de soi, la confiance en ses compétences, on en a parlé, par rapport à l'école par exemple. Là, c'est la confiance en lui, c'est-à-dire avec l'affirmation de soi. Je peux exprimer mes propres choix. Je ne suis pas subordonnée aux choix de mes parents. Ça s'exprime assez tôt, dès l'âge de 3 ans, ou même un peu même avant, à l'âge de 2 ans, quand il y a cette phase d'opposition où l'enfant va dire « je veux ceci » ou « je veux cela », »,« je veux manger ceci », ou que vous lui dites « tiens, tu veux jouer ?»« Non ». »« Tu veux dormir ?»« Non ». Et puis il tombe de sommeil. Il est en train de s'affirmer, d'exprimer sa propre volonté, ses propres choix. Donc, en tant que parent, si on veut qu'il développe une confiance en soi, il va falloir le laisser s'exprimer. D'accord ? Il y a une technique qu'on utilise, c'est lui donner des choix. Sur différentes situations, je vais lui dire, par exemple, vous savez, l'enfant, quand il veut s'habiller tout seul et que la météo ne le permet pas de s'habiller, il veut mettre ses sandales d'été pieds nus et puis, il pleut aujourd'hui. Mais ouais, je veux mettre mes sandales. Laissez-le faire le choix, c'est pas grave. Laissez-le, proposez-lui. Il va revenir, il aura les pieds mouillés, mais au moins, il aura appris quelque chose. Vous voyez, moi, je suis pour ces techniques-là. Donc, lui proposer des choix, c'est-à-dire... le choix, c'est à partir de 3. Vous savez,
c'est jamais 2. Oui.
2, c'est un dilemme. C'est pas un choix. C'est ou ça ou ça. Le choix, c'est ça et ça et ça. 3 choses. D'accord ? Donc, vous lui proposez différentes choses pour qu'il puisse exprimer et laissez-le créer vraiment ce cadre sécurisant où il peut développer et s'affirmer. Voilà, sa propre volonté.
Alors, on rappelle que le choix, c'est 3, c'est jamais 2.
Oui, absolument.
Parce que nous, on croit que c'est 2.
Non, parce qu'on dit, choix, c'est la structure du dilemme, Philippe. Fruits ou fromage. Ou les deux. Vous savez, quand vous êtes au restaurant. Alors, fruits ou fromage, qu'est-ce que vous prenez ? Ou ça ? Non, on prend les deux. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup, un proverbe juif qui dit, entre deux choix, je choisis le troisième. Entre deux voies, je choisis
donc,
la troisième.
Donc voilà, si vous voulez que votre enfant choisisse, c'est 3 propositions.
Minimum. 3 propositions minimum.
Bon. Voilà. Beaucoup vont se dire, mais t'as vu ce qu'a dit la dame ? Elle dit que même si en plein hiver, il faut laisser mettre ses sandalettes.
Oui, alors, bien sûr qu'on va... Avant, on va pas... Alors, si vous êtes comme moi, et comme la plupart des mamans, d'accord, ou des parents, papa aussi, vous allez... Il y a les vêtements d'hiver et les chaussures et les souliers, je vais dire ça comme ça, d'hiver, et puis à ceux d'été, et puis de demi-saison. Donc, on va les ranger, les sandales.
Ouvre-toi,
on va pas laisser les sandales.
Tu vas avoir froid.
Oui, mais alors, je crois que c'était Goethe qui disait ça, Philippe, qui disait, une mère qui dit à son enfant, mets un pull, c'est parce qu'elle a froid. Ou qu'elle est frileuse, vous connaissez, Goethe qui disait ça. Donc, ça veut dire que c'est nous qui avons froid. C'est nous qui avons, donc dans ce cas-là, mets-toi, mets un pull, mais laisse-le. Et généralement, on le voit beaucoup à l'adolescence ou des enfants qui sortent même en plein hiver avec des t-shirts ou juste un sweat et qui te dit, mais t'as pas froid ? Non, non, j'ai pas froid. Donc, c'est pareil pour la confiance. De dire, attention, tu sais, je me méfie de celui-là. Quand tu es avec lui, je trouve qu'il t'influence, il est pas de bons conseils, il est pas... Oui, vous pouvez le penser, vous pouvez l'exprimer, mais transmettez à votre enfant les outils pour discriminer, quand je dis discriminer, c'est-à-dire pour avoir, pour évaluer, pour juger, pour analyser que tel ou tel comportement n'est pas acceptable, n'est pas bon pour lui et lui fait faire toutes ces influences en fait qui peuvent le guider.
À noter que tout ça, ça se travaille au quotidien. Hein.
Oui, absolument. C'est l'enfant est tout le temps en train d'apprendre.
Oui.
D'accord. Donc c'est pas, je dis aujourd'hui il est telle heure. On va faire, un quart d'heure de confiance en soi. Non, c'est tout au long de la journée, de la soirée, des interactions qu'il va avoir avec tout son entourage, avec des professeurs. Et d'ailleurs, qui n'a pas eu un professeur, un maître, qui a cru en nous, qui a vu en nous notre potentiel, qui a vu en nous notre grandeur, notre beauté,
L'effet Pygmalion.
Exactement, l'effet Pygmalion, de croire en la personne avec laquelle on est, donc c'est la Pygmalion, on en a déjà parlé, c'est un psychologue aussi, Rosenthal. Voilà, alors je pars dans toutes les références, Philippe. Un psychologue Rosenthal qui... qui a fait une étude, donc un Américain avec ses étudiants, et qui a fait une étude en fait sur des élèves dans deux écoles, dans deux classes différentes, donc en donnant une classe de super bons élèves et en disant au professeur que ces élèves étaient nuls et qu'ils ne devaient rien attendre d'eux. Donc c'est le pouvoir des attentes, hein, dans cette histoire. Et puis l'autre classe qui était des enfants des cancres, hein, et que les profs ils ont dit au professeur: oh là là, vous allez voir, c'est la crème de la crème, ils sont juste extraordinaires. Voilà.
Bon, vous êtes venu avec votre boîte à outils, Karima, oui. Et donc vous allez donner tout à l'heure quelques conseils aux parents, quelques postures à adopter pour justement permettre aux enfants d'acquérir cette fameuse confiance en soi dont on parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, comment aider nos enfants à avoir confiance en eux. On en parle aujourd'hui avec Karima Shadi-Baou. J'aimerais qu'on parle de du contrat relationnel que les parents doivent passer avec leur enfant.
Oui. Alors, quand on parle de contrat relationnel, on est vraiment dans cette alliance. On fait alliance ensemble. Donc, c'est comme un pacte. Qui est un pacte solaire. Alors moi j'aime bien quand je travaille là-dessus avec les parents en séance, donc au sein de mon cabinet, de vraiment décrire les choses. Pourquoi ? Parce que c'est de pouvoir vraiment poser une empreinte et que l'enfant puisse lui aussi s'exprimer. Donc quand on parle d'une alliance, c'est pas, attention les parents qui nous écoutez là, hein, c'est pas vous allez faire votre listing de je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je veux que ça se passe comme ci, comme ça, et que c'est finalement vos lois à vous. Quand on crée donc ce contrat relationnel, cette alliance qu'on va créer ensemble, et c'est une alliance qui est co-créée. Ça veut dire quoi, co-créée ? Ça veut dire qu'on va la créer ensemble, c'est-à-dire avec le point de vue de votre enfant, les besoins de votre enfant, donc ça veut dire qu'il faut être à son écoute. Mmh. Il y a aussi vos besoins à vous en tant que parent, et ce que vous attendez, vos attentes en tant que parent. Donc, dans ce contrat relationnel, il y a deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on va donc lister les choses, comment on veut être ensemble. Comment je veux être avec toi et comment...
Alors, donne un exemple. Ça peut être absurde, hein, pour les gens qui nous écoutent.
Quand tout va bien, Philippe, c'est facile. Vous voyez, quand tout va bien, c'est très facile. Pourquoi ? Parce que ça ne nous demande pas d'effort. Mais comment on veut être, par exemple, dans le conflit, quand on n'est pas d'accord ? D'accord ? Dans une alliance, quand on n'est pas d'accord ensemble, comment on va être et comment on va communiquer ? C'est ça le contrat relationnel. Comment on va communiquer ensemble pour pouvoir se dire les choses sans se blâmer, sans faire de reproches ? Vous vous rappelez tout ce qu'on avait fait sur la CNV et qui avait eu beaucoup de succès ces émissions-là ? Donc la CNV, communication non violente. Comment on veut être ensemble ? Comment moi, en tant que parent, je dois être pour pouvoir développer chez mon enfant cet état de confiance. Si je suis un rouleau compresseur, si je suis un bulldozer, si je suis la mère Folcoche, vous vous rappelez ? Si je suis quelqu'un de vraiment qui parle qu'avec des ordres, qui blâme, des reproches, le contrat relationnel, il est de dominant à dominé. Et donc, je ne vais pas pouvoir développer la confiance de mon enfant. Je vais plus développer de la peur. Et l'enfant va faire les choses parce qu'il a peur. Et généralement, il va le faire parce qu'il a peur de sa mère. Il a peur des conséquences de sa mère ou de son père. Des conséquences. Et surtout, il va vraiment se replier sur lui-même et pas oser faire les choses et pas s'affirmer. Donc, dans ce contrat relationnel, je veux développer l'affirmation de soi. Je laisse mon enfant s'exprimer. Je suis à l'écoute de son ressenti, à l'écoute de ses besoins et de ses émotions. Dans cette situation, tu penses quoi de ça? Et comment tu te sens dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est généralement dans le conflit qu'on a besoin de rétablir cette alliance. Co-créer, comment on veut être ensemble quand ça ne va pas, comment tu veux qu'on communique, combien de temps on se laisse, est-ce que tu as besoin de rester incubé un petit peu et de pas parler, d'être dans le silence, ok, combien de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Au bout de ce temps-là, on revient et on s'installe à la table des négociations pour discuter. Voilà, dans ce contrat relationnel. Donc vraiment, Philippe, c'est être à l'écoute du ressenti de mon enfant, ne pas être dans la comparaison. Si je compare mes enfants, et je dis, bah regarde ta sœur, ou regarde ton frère, lui, ou regarde ton copain là avec lequel tu vas jouer au foot. Comment est-ce qu'il est, lui ? Bah lui, il a pas ces problèmes-là, hein. Voilà, bah pourquoi tu... Ou alors, demande à ton coach, et le coach sportif qui là, en train d'humilier, de vexer l'enfant, n'est pas en train de développer. Donc ce contrat relationnel, il faut qu'il soit vraiment juste et équitable, et qu'il soit à l'écoute des besoins de l'enfant, des besoins aussi du parent. Les deux. Et ça, c'est important. Donc, les parents peuvent nous dire, là, oui, mais comment on fait ça? Ben, on en discute ensemble. Comment tu me trouves avec toi quand je viens et que je t'encourage, ou que par rapport, quand on va lire à la remise... là, ça va être aussi la remise des bulletins du dernier semestre. Alors, certaines écoles travaillent avec des semestres, d'autres avec des trimestres. Eh bien, la remise, on en est où au niveau des compétences? Qu'est-ce que tu es encore en train d'acquérir? Alors moi, j'ai une astuce, et ça, je le dis aux parents, parce que malheureusement, nos professeurs ne sont pas tous formés à des techniques de communication et dans la bienveillance toujours, même s'ils ils peuvent être bienveillants, une intention de bienveillance, mais dans l'expression de cette bienveillance, ne savent pas le faire. Moi, à chaque fois que j'allais à la remise des bulletins, du livret, je disais, je saluais, donc je rentrais avec mon enfant, j'emmenais avec moi mon enfant, et je regardais mon enfant, et puis je disais, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait de bien, mon enfant, ce trimestre? Le prof, ça le déstabilisait, il me disait, oui, parce que tout de suite, il allait enchaîner, hein, vous dire, bon, ça va pas. Donc, vous l'obligez, en fait, c'est-à-dire que vous allez guider l'échange. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Dans quoi est-ce qu'il est fort? D'accord? Pour mettre l'enfant en énergie haute et dire, ben voilà, écoute, on est en train de parler de tes évaluations, mais regarde, il y a des choses positives. C'est quoi les choses positives? Qu'est-ce qu'il a fait de bon, de bien? Dans quoi il s'en sort? Ensuite, ben qu'est-ce qu'il peut améliorer? Qu'est-ce qu'il peut améliorer? C'est le principe du feedback, hein, ceux qui nous écoutent, des gens connaissent ça.
Axes d'amélioration.
Hein,
voilà,
les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'il peut améliorer? Donnez-moi des exemples, quoi spécifiquement, comment? Et enfin, on termine par une évaluation entre guillemets, mais qui est en fait positive et sur la qualité d'être de l'enfant, la présence de mon enfant, comment vous la trouvez dans la classe, comment est-ce qu'il est présent, qu'est-ce que vous appréciez chez lui. Ça, c'est important de le dire aussi à l'enfant, ce que j'apprécie chez toi, ce que je vois de toi, ce que j'entends de toi, ce que je ressens de toi. C'est ça. Je vous assure que si vous mettez en place ces outils, vous allez voir, ça va aller tout seul. Vraiment.
Les enfants font souvent le reproche que les adultes croient tout savoir et qu'ils ne donnent pas la valeur à ce que pense l'enfant ou croit l'enfant.
Oui. Et ça, c'est problématique.
Parce que les parents disent, attention, je te rappelle tout de suite, c'est moi qui sais.
Oui, hein, oui.
Donc, mais parce toi, t'es un enfant, tu restes à ta place. Hein.
Mais parce que Philippe, on est face en fait à un jeu de pouvoir. Quand je dis un jeu de pouvoir, le parent, il s'estime, en tout cas, et c'est comme ça aussi qu'il est vu par son enfant, comme tout sachant. Il sait tout, il comprend tout, maman c'est Wonder Woman, papa c'est Superman, il sait tout, il voit tout avec ses yeux supersoniques, ses oreilles aussi, donc il sait tout. L'enfant, donc il est, à un moment donné, il réalise et il voit que papa, maman ne sait pas tout. Il aurait, à un moment donné, il fait descendre en fait le parent de ce piédestal. Le parent, il le vit mal des fois. Il le vit très mal. Il a l'impression qu'il a perdu son pouvoir, son super pouvoir de parent. Et donc, le fait qu'il soit remis en question ou remis en cause ne dit pas que, ça y est, il vous rejette en tant que parent. Il dit simplement, il est en train d'ouvrir son esprit. Il est en train de s'ouvrir à d'autres choses. Il est en train de découvrir qu'il y a une autre manière aussi de réfléchir. Et justement, il est en train de modéliser ou de se l'approprier. Donc, le parent, si le parent dit, attends, remets-toi à ta place. En fait, c'est une volonté de remettre l'enfant, c'est-à-dire le recadrer. Je veux dire ça comme ça, ou repositionner en fait des limites, c'est ce qu'on fait. La problématique, c'est quoi? C'est que en faisant ça, on peut devenir un bulldozer ou un rouleau compresseur et empêcher l'enfant en fait d'exprimer, de s'affirmer. Donc, votre pouvoir de parent n'est pas altéré, n'est pas touché. Pas la peine de dire c'est moi qui sais. Donnez plutôt les outils d'analyse et les outils de conviction à votre enfant pour dire, ben voilà, moi je suis convaincue de ça, voilà mon raisonnement, je suis passée par là. T'en penses quoi, toi? On a des points de vue différents, donc vraiment de voir ces différentes positions de perception, différentes manières de voir les choses.
Alors un enfant qui manque de confiance en lui-même, c'est pas forcément un enfant qui est replié sur lui-même, ça peut être aussi un enfant qui est toujours en quête d'attention.
Exactement.
Pourquoi?
Oui, alors un enfant qui est toujours en quête d'attention, donc il a besoin d'une reconnaissance, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être entendu. Donc c'est pas parce que, souvent parce qu'on fait... Le timide, l'introverti, manque de confiance, si on lui met toute la panoplie de tout ça. Non, c'est pas. On peut avoir un enfant extraverti, c'est-à-dire qui va puiser l'énergie à l'extérieur, être avec les autres et en demande d'être avec les autres, mais qui a un terrible manque de confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en lui, on l'a dit. C'est parce que il a peut-être
besoin. Mais
qu'est-ce
qu'il a, quoi? Il a besoin de validation.
Il a besoin de validation.
C'est
oui.
Ça
il a besoin de il est en quête de validation, en quête de reconnaissance, et peut-être qu'il croit qu'il n'est pas à l'intérieur de lui-même, qu'il n'est pas assez. Vous savez, on le dit beaucoup ça. Je ne suis pas assez. intelligent, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez attirant, je ne suis pas assez inspirant, je ne suis pas assez. Mmh. Et donc, du coup, il va en faire de trop. Et c'est là où il peut tomber dans l'arrogance et dans l'orgueil. Quand on parlait du début de l'émission.
Il va en faire de trop pour qu'on s'intéresse à lui.
Exactement.
En fait.
Alors faut simplement un regard suffit, Philippe. Juste de le regarder, de lui dire je te vois. Juste je te vois. Vous savez, quand vous dites bonjour à quelqu'un, le fait de dire bonjour ou de dire le salam, c'est je te vois. Et je viens vers toi avec la paix et avec le bonjour, avec quelque chose de positif. Mmh. Le fait de le voir, je te vois, tu n'as pas besoin de gesticuler dans tous les sens. Et donc, bien sûr, cet enfant, il va falloir le prendre dans les bras, avoir des temps particuliers avec lui, des rendez-vous avec lui, des temps dédiés rien qu'avec lui.
Certains parents, quand ça ne va pas assez vite, font les choses à la place de l'enfant en disant, tiens, on va gagner du temps.
Ça, c'est terrible.
On a tous assisté à ça.
Oh là là, Philippe, moi, vous savez ce que je dis aux mamans.
L'enfant qui est là en train de galérer pour faire ses lacets, son manteau.
Ou faire ses devoirs. Et moi, il y avait une maman, elle me disait, elle prenait les devoirs, elle prenait les notes. Et pas plus tard que là, le lundi, j'étais en atelier et c'était une maman qui disait, je lui dis, mais vous savez quoi, madame, vous savez ce que je vais faire? Ben allez-y vous à l'école, c'est vous qui allez à l'école, c'est pas lui. Elle appelle pour il a manqué la leçon ou il a pas tout écrit parce qu'il est un peu lent. Donc elle appelle, c'est maman qui appelle le copain, la maman du copain, le qui va sur Pronote quand c'est au collège ou sur un autre, je sais plus, il y a Pronote et l'autre je sais plus comment il s'appelle, pour aller chercher les devoirs sur le cahier du jour, sur le cahier de texte de la classe. Et donc c'est la mère qui fait à la place, ou je dis mère parce que c'est souvent les mères que je vois faire ça, mais les pères aussi. Donc laissez-moi faire tout seul. Maria Montessori disait apprends-moi à faire seul. Donc la quête de l'autonomie, les chemins de l'autonomie, c'est faire avec lui. Vous êtes à côté de lui et vous lui donnez des petits challenges. S'il est lent, ben il y a la méthode Pomodoro. Vous allez lui apprendre, vous allez mettre un minuteur et lui dire ben voilà, quand l'aiguille arrivera là ou quand ça va, la sonnerie va retentir, voilà, tu sais que il faudra que tu aies fini. D'accord. Et on arrive et on lui donne des petits challenges, des petits défis pour qu'il y arrive. Mais si on fait tout le temps à sa place, ou alors c'est parce qu'il faut faire vite, dépêche-toi. Non, tu as le temps du monde, le temps de 5 minutes, le temps du monde pour faire ce que tu as à faire.
C'est vrai pour les adultes aussi.
Oui.
Quand on est en phase d'apprentissage ou qu'on apprend quelque chose de nouveau, il faut qu'on fasse par soi-même.
Mais exactement. Il n'y a pas mieux que l'expérience. Philippe m'a déjà entendu parler de ce proverbe nigérian que j'aime beaucoup. Un savoir n'est que rumeur tant qu'il n'est pas descendu dans le muscle. Donc, ce savoir, ce truc que je vois, il est rumeur, il est là-haut, je sais pas ce qu'il fait là. Il n'est pas descendu dans le muscle, c'est-à-dire l'imprégnation et l'expérimentation. Il n'y a pas mieux.
Karima Shadi Baou sur Beurre FM. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous reverrez la vidéo. Non, vous la reverrez pas d'ailleurs, vous la verrez et ensuite vous la reverrez sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez Karima sur ses réseaux sociaux d'ailleurs.
Voilà, envoyez-nous les sujets. Voilà, les
et
sujets.
Commentez sous les vidéos, comme ça on vous répondra. Merci Karima.
Avec plaisir.
Et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.